C'est un musicien que je reçois aujourd'hui, un pianiste concertiste qui est aussi professeur au Conservatoire du Grand Narbonne et qui vient nous présenter son dernier CD. Bonjour Cyril Guillotin.
Bonjour.
Alors vous êtes au doigt depuis plusieurs années.
Depuis 3 ans maintenant.
Pour des raisons professionnelles, pour travailler au...
Tout à fait, oui, je suis venu suite à mon recrutement au Conservatoire du Grand Narbonne pour une classe de piano et de musique de chambre.
Auparavant, vous étiez dans la région parisienne pour
c'est ça.
Une longue formation. Il faut remonter loin dans le temps pour trouver votre vocation. Est-ce qu'on peut parler de vocation
Oui, il faut une vocation parce que c'est un métier formidable, mais c'est un métier très dur, qui demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, notamment lorsqu'on est très jeune. Donc sans vocation, sans passion, c'est totalement inenvisageable. Il faut remonter loin puisqu'il faut remonter à ma naissance. Je suis né en région parisienne et j'ai fait...
Vous aviez autour de vous des personnes qui s'intéressaient à la musique classique?
Alors oui, des musiciens non. Il y a aucun musicien dans ma famille, ni proche ni lointaine, mais mélomane, oui, mon père est un grand mélomane.
Oui. Donc ensuite un cursus normal conservatoire.
C'est ça.
D'école de musique en école de musique où il y a.
Alors pour ma part, j'ai commencé plutôt avec des professeurs, je dirais en particulier, pour commencer, pour tâter un petit peu le terrain, et puis après effectivement très vite une rentrée au conservatoire à l'époque régionale CNR de Paris, dans un niveau qui était celui de mon âge quand j'avais 9 ans, et puis j'ai fait mes classes dans ce conservatoire donc de la rue de Madrid et jusqu'à l'obtention d'un prix de perfectionnement, puis l'entrée après au Grand Conservatoire de Paris.
Et pour en faire son métier, il y a un choix à un moment donné à faire par rapport à d'autres métiers possibles.
C'est vrai qu'il y a un choix, c'est un risque à prendre parce qu'il faut prendre ce choix souvent assez tôt, voire même avant la fin de ses études, pour pouvoir consacrer suffisamment de temps au travail de l'instrument et à tout le travail, je dirais, de culture générale qui est autour. Donc fatalement, ce temps ne peut plus être consacré à d'autres choses. Alors ça peut prendre sur les loisirs, ça prend forcément sur les loisirs, ça prend sur les activités sportives. Après, ça peut aussi prendre sur le temps scolaire. Heureusement, pour ma part, j'ai bénéficié des premières classes à horaires aménagés, ce qui m'a quand même permis de me libérer des après-midi pour pouvoir bien travailler mon instrument et donc progresser comme il le fallait. Mais il est nécessaire de pouvoir aller à un très bon niveau de connaissances scolaires parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. C'est une voie qui est tellement certaine.
C'est important d'avoir des bons maîtres, d'avoir... de recevoir un enseignement soi-même solide.
C'est capital. C'est capital parce qu'on transmet, au public. Déjà, c'est la nature même de notre métier. Mais pour transmettre, au départ, il faut quand même qu'on nous apprenne un certain nombre de choses, qu'on
nous fasse. Ensuite, il y a le travail personnel.
Exactement. On grandit soi-même. Mais je veux dire, c'est comme une plante. Si vous n'avez pas un jardinier au départ qui s'en occupe, la plante ne pourra pas pousser d'elle-même. Il faut évidemment qu'on puisse lui donner les conditions de sa croissance et après, effectivement, l'artiste lui-même va prendre son essor et grandir de lui-même. Mais les maîtres sont capital et pour moi, j'ai eu la grande chance d'avoir un parcours jalonné de grands maîtres différents, complémentaires à travers mes études et ma jeune carrière.
Les premiers concerts sont arrivés rapidement.
Oui.
Et les premiers enregistrements après.
Alors, les premiers enregistrements très tard. Parce que le premier enregistrement était de 2013. Donc j'avais 33 ans à l'époque. Mais effectivement, les premiers concerts, oui, ils sont arrivés très tôt. Mon premier professeur, la pianiste Gabriella Torma, m'avait déjà présenté à des concours dès l'âge de 8 ans. Donc il s'était bien passé, les uns après les autres. Et j'ai pu donner un premier récital à Prague, dans le cadre du festival européen Mozart qui se donnait en 1991 pour le bicentenaire de la mort de Mozart. Donc c'est vrai que ça a été mon premier grand concert et puis d'autres après se sont enchaînés évidemment dans des salles parisiennes, la salle Pleyel, la salle Cortot, d'autres grandes salles. Et voilà, alors après il y a eu quelques petites pauses on va dire, parce qu'il y a un moment où il faut quand même travailler aussi, hein. C'est bien joli de monter sur les scènes et de jouer, mais il y a quand même un moment où il faut faire un travail de fond, et donc là, on est moins présent, fatalement, puis on revient ensuite, une fois qu'on a fait, entre guillemets, sa mue. Voilà, c'est différents jalonnements dans le parcours.
On va écouter un premier enregistrement et on parlera de ce premier disque que vous avez enregistré. Un premier extrait des enregistrements de Cyril Guillotin. Ce disque s'appelait Sortilège.
Oui.
C'était en fait plusieurs compositeurs. Vous interprétez plusieurs compositeurs.
Alors, il y a trois compositeurs sur ce disque, dont deux Russes, parce que je voulais quand même rendre hommage un petit peu à la formation que j'ai pu recevoir à travers ma première professeure, Gabriela Torma, et puis surtout celle qui a été ma guide au Conservatoire de Paris, Brigitte Ungerer. Qui est décédé quelques mois avant l'apparition de ce disque-là. Donc c'est vrai que c'était un petit peu une sorte d'hommage. Et sur ce disque, je joue les tableaux d'une exposition de Moussorgski, dont le Casse-Noisette, la version réduite pour piano de Casse-Noisette de Tchaïkovski par le pianiste Mirel Pletniev, dont on vient d'écouter un extrait qui est la danse russe, le Trépak.
Est-ce que c'est pas difficile justement de choisir des morceaux qui n'ont jamais été vraiment interprétés, joués, ou on retombe toujours dans les mêmes.
Alors, il y a différents choix, effectivement. On enregistre ce qu'on a envie de pouvoir faire écouter, ce sur quoi on a envie de délivrer un message. On n'enregistre pas pour enregistrer, en tout cas, c'est pas ma philosophie. Sur les œuvres que j'ai choisies, le Tchaïkovski par Pletniev est une œuvre qui n'a pas été beaucoup enregistrée pour une simple raison, c'est qu'elle est affreusement difficile. Et depuis, elle a commencé un petit peu plus à se développer, mais c'est une œuvre que je voulais défendre parce que je trouve que l'orchestration est absolument, la réduction pour piano de la version pour orchestre est absolument merveilleuse. Pletniev fait un choix de ne rien écarter dans toutes les magies instrumentales et orchestrales de Tchaïkovski. Alors après, le pianiste en paye le prix parce que avec 10 doigts, c'est difficile de pouvoir faire tout ce que l'orchestre fait, mais il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans cette réduction-là. Et les tableaux d'une exposition, c'est une des œuvres majeures que m'a fait travailler Brigitte Ungerer au conservatoire. Mmh. C'est l'œuvre avec laquelle j'ai passé mon premier prix à Paris, avec laquelle j'ai gagné.
Et pour l'enregistrement, il y a quand même un travail particulier à faire sur un certain instrument aussi, peut-être. Est-ce que le compositeur nécessite certains types
pour
d'instruments ?
Pour ce disque-là, pour Sortilège, pas vraiment. Pour ce disque-là, c'était un piano moderne, un Steinway, un très beau Steinway, mais il n'y a pas eu de choix spécifique sur les instruments. C'est évidemment, là, pour le coup, pour mon dernier disque, Al Dunkel, qui sort donc le 5 février, ça a été d'un choix de vraiment aller chercher des instruments, de pouvoir faire une recherche musicologique. Ça n'a pas été le sujet de Sortilège. Sur Sortilège, j'ai voulu vraiment donner ce témoignage, cet hommage à la musique russe qui m'habite depuis ma plus tendre enfance. Et y insérer également une œuvre de Laurent Lefrançois, un triptyque qui s'appelle Les Visages, que Laurent m'a dédié et que j'ai créé en 2007 au Festival de Montpellier. Donc de la musique contemporaine que j'affectionne particulièrement. Thank you.
Piano classique dans la rue des Arts sur RCF Pays d'Aude avec Cyril Guillotin qui nous parle de ses enregistrements. Alors qu'est-ce qui s'est passé après Sortilège? Ça vous a donné un élan sûrement pour continuer, pour aller plus loin?
Oui, oui. Alors voilà, là on vient d'écouter Bleu, le courageux, qui est le premier volet des visages de Laurent Lefrançois, qui est un compositeur contemporain que j'aime beaucoup, qui est maintenant un ami. Et suite à Sortilège, Laurent Lefrançois m'a convié sur une production, sur une très grosse production, qui est mon deuxième disque, Balnéaire.
C'est un titre qui donne envie.
C'est un titre qui évoque le voyage, effectivement.
Oui, sur le bord de plage.
Tout à fait. Voilà, c'est le concept un peu du disque. Ça, l'idée lui serait venue dans un trajet pour se rendre, je crois que c'était au Havre, cité balnéaire. Voilà, la mer à 2 heures de Paris. Je crois que c'était ça le leitmotiv. Et donc Laurent m'a convié sur cette production où il y avait des immenses artistes. Paul Meyer à la clarinette, Magali Monnier à la flûte, le quatuor par ici, Nima Sarkechik qui est un très grand ami pianiste. Voilà, c'est une production assez énorme, j'en oublie d'autres, Gilbert Audin au basson, Ria Hidetta, enfin voilà. Et donc c'est vrai que ça a été un prolongement très très heureux de ce premier disque Sortilège. Balnéaire est sorti l'année d'après.
Et trouve toujours ces CD.
C'est un CD qui est dans le commerce, sous le label Évidence Classique. Et vous parliez de liens, effectivement. Bah, y en a un autre avec le dernier, donc Al Dunkel, Clair Obscur, qui sort là prochainement. Puisque c'est la même maison de disques que Balnéaire, c'est le label Évidence Classique qui, donc, cette fois, a souhaité m'accompagner sur le projet solo d'Al Dunkel.
D'autres activités autour de la musique, j'ai vu la fondation de l'association Les Classiques Buissonnières.
Oui, oui, j'ai créé cette association en 2008. C'est une association que nous avons créée pour défendre la musique classique, l'amener un peu partout, auprès de tous les publics, et notamment auprès de ceux qui sont parfois le plus reculés, qui n'ont pas accès, tout simplement parce qu'ils sont loin de grandes villes, tout simplement parce qu'ils habitent des petites communes qui n'ont pas le budget pour pouvoir louer un piano et faire venir un concertiste, parce que ça coûte évidemment des sous. C'est pas forcément non plus le réflexe de certains élus à la culture, donc tout ça fait que il y a des populations qui sont coupées tout simplement de la musique classique ou parce qu'ils travaillent au 3-8. Et quand vous travaillez au 3-8 dans une entreprise... Et
dans l'Aude, cette association a commencé à...
Cette association, évidemment, elle commence à se faire connaître. Elle a commencé déjà à organiser quelques événements et elle est productrice en partie du disque Al Dunkel. Et là, nous travaillons sur la conception de projets de festival pour permettre notamment à l'Aude de pouvoir avoir une visibilité plus importante à travers la musique classique et surtout le public que cela concerne en France, mais également en Europe par les artistes qui sont de mes amis ou de mes connaissances, que je compte bien essayer de faire venir sur notre beau territoire.
On va écouter un premier extrait de Al Dunkel, donc ce dernier CD qui sort en février ce mois-ci et qui peut se traduire par clair obscur.
Oui, alors c'est comme souvent dans les traductions, quand vous avez un mot comme ça qui est très marqué, il n'y a pas une véritable traduction littérale. Oui. Mais c'est la conception effectivement de ce côté double lumière.
C'est un beau titre.
Voilà, du miroir, du passage entre deux mondes, du regard entre deux éléments qui peuvent être les mêmes mais qui sont séparés peut-être par le temps. Voilà, et la signification en allemand, Al Dunkel, est bien plus complexe et sensible que le simple clair-obscur en français, même s'il englobe beaucoup de sens en français. Thank you.
Cyril Guillotin, ce morceau, qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Ah ben là, on est dans votre le clair.
Votre interprétation, parce qu'il est très connu, et
oui.
Vous avez votre façon à vous de l'interpréter.
Alors les variations, vous dirais-je, Maman de Mozart, c'est quelque chose qui me suit depuis un moment, parce que c'était aussi une œuvre que je jouais à mon prix au Conservatoire de Paris. C'est une œuvre que j'adore parce qu'elle est tellement, bourrée de vie, bourrée de joie, bourrée d'espoir.
Elle est claire, elle n'est pas obscure.
Elle est complètement claire. Quoique, il y a des variations dedans qui sont extrêmement nostalgiques, qui sont voire presque beethoveniennes, qui ont quelque chose de très sombre, ce qui est assez rare pour Mozart. Et souvent les œuvres que j'ai choisies pour ce Dies Heldunkel sont justement des œuvres qui permettent cette alternance de lumière, d'obscurité, d'espoir, de désespoir. Là, j'ai voulu effectivement ouvrir ce disque par ses variations. Je trouve ça tellement merveilleux que Mozart ait réussi à prendre un thème très simple, simplissime,
qui se retient
tellement facilement et qui fasse 10 minutes de bonheur absolu en partant dans toutes les directions possibles, imaginables, et permettant surtout à l'interprète de pouvoir être totalement libre. C'est-à-dire que je joue jamais cette œuvre-là pareil deux fois en concert. Je me laisse aller sur l'inspiration du moment. Je travaille évidemment à plusieurs possibilités, mais toutes ces voies, toutes ces portes que je m'ouvre sont justement là pour que je sois totalement libre le jour, le moment du concert.
Alors, il y a la manière d'interpréter personnelle, mais il y a l'instrument aussi, puisque vous avez enregistré sur des pianos anciens.
Et les
pianos du 21e siècle qui sont sûrement très, très différents aujourd'hui.
C'est véritablement le sens de ma recherche sur Heldunkel. C'était d'aller chercher les instruments qui pouvaient être ceux de la réalité musicale de l'époque. Alors pas forcément.
Ils sont répertoriés tous ces instruments
oui,
anciens.
Ah oui, c'est des instruments
dans différents coins de France ou d'Europe.
Alors là, j'ai eu la grande chance de pouvoir trouver des merveilles dans une collection privée d'un magnifique collectionneur, restaurateur, accordeur de piano qui s'appelle Gérard Fauvin, qui est à Pétignac dans les Charentes, un peu plus à côté d'Angoulême, qui possède, je sais plus, 150-200 pianos. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Il faut de la place.
Il faut beaucoup de place. Oui, vous en parlerez à sa femme. Il faut beaucoup, beaucoup de place. Mais c'est absolument merveilleux parce qu'on rentre dans une caverne d'Ali Baba, remplie de merveilleux bijoux. Et en l'occurrence, moi, j'ai pu faire la connaissance de Gérard et il m'a accueilli très généreusement.
Vous avez choisi votre piano.
J'ai choisi mes pianos. J'ai choisi trois pianos. Un Carlo Demeglio de 1832, complètement dans la veine des pianos du début, comme ça, du 19e
siècle. Le son est vraiment
siècle.
Différent.
C'est complètement différent parce que vous êtes en contact direct avec la touche. La mécanique est simplissime par rapport à une mécanique moderne. Il n'y a quasiment aucune démultiplication, ce qui fait que vous êtes en direct, l'action du doigt donne une action directe sur la touche, donne une action directe sur le son. On pourrait se dire que du coup, ce serait plus simple. Et en fait, ça ouvre une palette tellement plus importante, tellement plus riche, ce qui permet évidemment d'explorer des plans sonores, des zones sonores complètement.
Et l'enregistrement n'est pas trop difficile justement par rapport à ce son naturel.
Ça a été une belle partie de plaisir. Parce que ces instruments datent, donc comme je vous l'ai dit, celui-là il datait de 1832, il a été merveilleusement restauré.
On peut pas le transporter dans un studio d'enregistrement.
On pourrait, mais j'avais tout caissé sur place, j'allais pas m'embêter à aller sur un studio d'enregistrement. On a tout fait sur place, mais par contre c'est vrai que la mécanique du coup, elle est extrêmement rudimentaire et elle est inégale. Elle est fatalement pas aussi performante, pas aussi égale, réglée qu'un Steinway ou qu'un piano moderne. En l'occurrence, sur le Steingraber, sur lequel j'ai enregistré à Bayreuth, donc le piano du 21e siècle, comme vous l'avez baptisé très justement, c'était autre chose en termes de réalisation pianistique. Il y avait une facilité pianistique qui était bien autre, évidemment. Mais c'est le but du jeu, c'est aller se mettre en danger, c'est aller chercher la réalité du moment de ces dates-là, que ce soit sur ce Carlo ou sur les deux autres pianos, le Erard ou le Pleyel, utilisés pour les autres œuvres de Heldunkel.
Le plaisir d'écouter dans la rue des Arts sur RCF Pays d'Aude, Cyril Guillotin au piano. Alors ce piano, dans le disque, il y a plusieurs pianos en fait.
Oui, il y a plusieurs pianos dans le disque, ce que vous venez d'entendre. C'est donc le Nocturne opus posthume en dièse mineure de Chopin, joué sur un pléyel de 1843 choisi par Chopin lui-même. Oui. Pour le régisseur du domaine de Nohant de Georges Sand. Donc c'est un piano non seulement d'époque, mais en plus historique. Ça a été une énorme émotion, évidemment, d'enregistrer.
Vous avez beaucoup voyagé pour, et vous voyagez beaucoup pour
de plus
aller
en plus,
d'un piano à un autre et d'assurer vos cours
à
Narbonne,
oui,
au conservatoire de Narbonne.
Oui, je suis très fier d'assurer toujours mes cours et de pouvoir les rattraper quand éventuellement je suis absent les jours de mes cours, ce qui peut arriver fatalement. Mais là, je suis allé en Allemagne, évidemment, pour enregistrer donc, le même programme sur le piano Steingraber, le dernier fleuron, le magnifique bijou de la marque allemande. Pour finir ce disque Aldunkel et dorénavant je vais tourner un petit peu, je vais jouer le 19 mars à Carcassonne, le 9 avril à Narbonne au Palais des Archevêques, en mai également à Saint-Marcel-sur-Aude, je crois que c'est le 20 mai, 22 mai à Collioure, voilà, il y a des dates qui commencent à venir et cet été à Bayreuth, effectivement j'ai eu
la date dernière, alors.
Un grand concert à Bayreuth dans le Festival Wagner.
Et ces concerts auront pour titre Aldunkel ou...
Pour certains, oui. Pour certains, parce que c'est le concept séduit et intéresse effectivement. Donc je souhaite faire partager cette expérience. Là, il y a quelques semaines, je me suis rendu dans l'Essonne pour une masterclass également, pour expliquer aussi toutes ces choses-là aux élèves, leur faire passer ces expériences que j'ai pu vivre et connaître avec le travail fait sur Aldunkel.
C'est pas trop difficile d'avoir des élèves qui démarrent ou qui sont d'un niveau différent.
Ah, c'est autre chose. Chaque chose a son plaisir. C'est merveilleux de pouvoir vous dire que vous allez pouvoir leur offrir le meilleur dès le début. Enfin, le meilleur de vous-même, bien sûr. Pas le meilleur en soi, mais le meilleur de vous-même dès le départ. C'est passionnant. C'est très motivant.
On retient donc ce titre, Aldunkel. Clair obscur est écrit sur le.
Tout à fait,
sur
c'est écrit, c'est le
la pochette
titre.
Du disque qui sort donc le 5 février et cette radio, notre radio, a le privilège d'écouter les premiers.
Voilà,
les premiers
vous êtes les
sons de cet album qui sera suivi d'autres enregistrements.
Sera suivi,
vous
je
avez
l'espère.
Déjà des projets.
Oui, j'ai des idées. Maintenant, je vais me reposer un peu quand même parce que c'est un double disque, c'est énormément de travail. Et là, ça fait un disque par an. 2013 sorti d'Edge, 2014, 2015. Bon, là, comme c'est un double, on va compter que ça fait 2 ans.
Oui.
Mais oui, évidemment, il y a d'autres envies, notamment sur le répertoire peut-être français ou sur du Liszt. On verra.
Un site sur Internet,
il suffit de taper mon nom sur Internet.
Cyril Guillotin.
Tout à fait.
Et on peut,
un site, un blog.
On peut commander le CD par Internet.
Il sera sur la Fnac, j'imagine, sur Amazon, il sera sur différents supports dès la mise en ligne officielle le 5 février.
Merci Cyril Guillotin d'être venu jusqu'à
Merci.
Carcassonne.
Merci beaucoup
à vous. Au revoir.
À bientôt, au revoir.